Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Chory. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur général d'Adonis Rheim. C'est une société de gestion d'actifs immobiliers qui gère environ 1 milliard d'euros aujourd'hui. Une grande partie est investie hors de France, notamment en Allemagne et désormais en partie en Espagne, car vous gérez deux SCPI, Eurovalis et Elialis, qui sont spécialisés respectivement sur les deux marchés européens que je viens de citer. On va profiter tout de suite de votre vision européenne des marchés immobiliers, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des marchés immobiliers en Europe et des différentes classes d'actifs sous-jacentes, bureaux, commerce, etc.
Alors le marché européen se comporte plutôt bien après effectivement l'exercice un peu compliqué de 2020 avec la crise de la Covid-19. Maintenant on remarque des différences, que ce soit effectivement sur la dynamique de certains pays. On voit aujourd'hui que l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie va plutôt aller dans une augmentation des volumes de transactions, voire même certains records en termes de volumes de transactions. Pareil pour UK. Ce sont des pays qui avaient soit traversé la crise un petit peu plus difficilement d'un point de vue sanitaire et économique, soit UK, la partie effectivement Brexit a joué pas mal aussi l'année dernière. En contrepartie de ça, les pays leaders en Europe continentale, que ce soit l'Allemagne, la France, subissent un petit peu plus, effectivement, et seront certainement en retrait, même si le T3 est plutôt très bon en termes de transactions immobilières. Ça, c'est pour la partie « balance », entre guillemets, des différentes activités sur certains pays. Si on prend par classe d'actifs, bien entendu, on va retrouver la logistique, la santé, le résidentiel, qui sont des classes d'actifs qui jouent.
Ce sont celles qui montent aujourd'hui.
Voilà. Ouais, d'accord. Qui jouent effectivement avec la mécanique de résilience et puis surtout avec des tendances. La logistique, c'est une tendance de fond liée effectivement à la montée du e-commerce et avec l'obligation pour les entreprises d'être au plus près de leurs consommateurs. Et de l'autre côté, on va avoir effectivement la santé qui va très bien fonctionner, le résidentiel, j'en parlais. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt la partie commerce et la partie hôtellerie, tourisme, qui a subi de plein fouet la Covid-19.
Et qui est un secteur en rebond aujourd'hui.
Et qui est un secteur qui a pas mal subi et qui, effectivement, est un secteur en rebond, pas partout, et pas en fonction.
Plutôt dans les pays d'Europe du Sud, justement.
Plutôt dans les pays d'Europe du Sud, effectivement. Après, ce qu'on remarque, pour regarder d'un point de vue macro, c'est que les crises, c'est toujours des problématiques et en tout cas des sujets de tendance et surtout des sujets d'accélération de tendance. On voit aujourd'hui que tous les acteurs du marché reviennent sur des grands fondamentaux, emplacement, emplacement, emplacement. On voit aujourd'hui que les bureaux s'arrachent sur les cœurs des grandes métropoles européennes. A contrario, les bureaux en périphérie ou éloignés ou dans les plus petites villes, c'est un peu plus complexe. Et pareil pour la logistique, pareil pour le commerce. On a toujours aujourd'hui des recherches d'actifs très centraux et qui vont aujourd'hui avoir toujours une valorisation importante.
Bah, le sujet aujourd'hui, c'est alors, le retour de l'inflation en Europe, enfin pas seulement en Europe, et notamment en Allemagne, puisque vous êtes positionné sur ce marché. Alors c'est la question classique, mais quel va être l'impact d'un retour de l'inflation sur la valorisation des actifs immobiliers ?
Alors l'impact, il est de plusieurs ordres, mais il est très lié. L'impact, ça va être effectivement une augmentation, par exemple, pour les investisseurs des coûts de crédit, puisque les différentes banques centrales sont obligées de contrecarrer l'inflation avec une remontée des taux directeurs. Et donc l'incidence directe, c'est une remontée des taux d'emprunt. Donc ça minimise la capacité des investisseurs à acheter. Donc ça, c'est la première conséquence. Donc celle-ci, ça peut être effectivement une baisse des prix des valeurs immobilières. En tout cas, ça peut être le sujet. L'autre point qui est important pour ceux qui détiennent de l'immobilier, c'est que l'IRL, donc l'indice de révision des loyers, va suivre effectivement cette mécanique d'inflation et donc va faire en sorte d'augmenter les loyers et donc augmenter les rendements des actifs qui sont déjà dans les portefeuilles. Donc ça, c'est effectivement les deux mécaniques de l'inflation. A priori, en tout cas ce qu'on entend de différents économistes, c'est qu'on a un retour d'inflation effectivement avec une perspective à 12 mois, 18 mois et après effectivement avec un retour à la normale. Donc on va voir comment ça va évoluer de ce point de vue-là.
On verra. Donc à court terme, là, vous êtes positionné, comme je disais, on reviendra tout à l'heure, sur l'Allemagne et l'Espagne. Point par rapport aux perspectives économiques et à l'état des marchés locaux, aujourd'hui, vous préférez jouer l'Allemagne ou jouer l'Espagne, très rapidement?
Alors, c'est deux marchés qui fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un où c'est effectivement l'Allemagne, où on a la première puissance économique européenne, et donc qui est un marché plutôt sécuritaire, un marché aussi, si on parle d'immobilier, qui est très profond, puisque c'est... alors, peut-être pas cette année, UK va repasser devant, mais en tout cas, l'année dernière, c'était le marché le plus important en termes de transactions immobilières. C'est, pour donner quelques chiffres, c'est à peu près entre 60 et 80 milliards de transactions, alors qu'en France, on est sur 20-30 milliards sur ces deux dernières années. Donc, on voit que le marché est au moins deux fois supérieur en termes de volume de transactions sur l'Allemagne. Donc, on va en tout cas investir, nous, et on va proposer cet investissement à des clients qui cherchent plutôt une régularité de revenus dans le temps, puisque c'est un marché assez stable, décentralisé, et donc qui va effectivement apporter une certaine régularité, en tout cas une potentialité de revenus assez régulier.
Et l'Espagne, c'est plus spéculatif alors ?
Sur l'Espagne, on est sur un pays d'Europe du Sud avec une économie un peu moins forte, comme d'autres pays d'Europe du Sud. On pourrait presque mettre la France à l'intérieur. Et de ce point de vue-là, on va avoir effectivement des rebonds. On l'a vu sur le PIB et par rapport à la crise de la Covid-19, on a eu des baisses de PIB très importantes sur les pays d'Europe du Sud. Et derrière, avec un rebond qu'on estime aujourd'hui, en tout cas qui est estimé de manière plus importante sur ces pays-là, notamment en 2021, en 2022. Donc c'est un marché qui est plus volatile. Et donc pour un investisseur, c'est aussi intéressant parce qu'on va aussi aller chercher des opportunités sur ces mouvements effectivement de marché qui sont plus rapides. On a des baisses plus fortes, mais des rebonds plus forts aussi dans ces pays.
Alors on verra. Il y a un sujet qui est un sujet très d'actualité aussi, c'est l'ESG. Vous venez, enfin Adonis Rem vient de publier sa feuille de route ESG. Et vous, à la différence d'autres gestionnaires d'actifs, vous n'hésitez pas à dire que la prise en compte de ces critères va conduire à une baisse des rendements. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors c'est assez naturel dans le sens où les décrets tertiaires en France sont faits de telle manière que tous les acteurs de l'immobilier vont être dans l'obligation de réduire de 40% dès 2030 leur consommation effectivement énergétique, donc leur consommation de CO2. Donc ça va impliquer une feuille de route de travaux nécessaires à faire sur des immeubles qui sont, on va dire aujourd'hui, inefficients d'un point de vue énergétique.
Donc ça coûte cher.
Donc, des travaux, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, c'est des coûts. Et donc, ça vient en minimiser, effectivement, les rendements de ces actifs immobiliers.
Est-ce que c'est il y aura la même intensité sur l'ensemble des pays européens, justement ? Est-ce que les réglementations sont les mêmes ? Est-ce que l'impact sera le même ?
Alors, chaque pays va effectivement avoir, je pense, ses décrets d'application. En France, on a le décret tertiaire qui est assez aujourd'hui lisible et qui va démarrer très très prochainement, qui a démarré et qui va effectivement être en décret d'application très très, enfin là dans les prochains jours et voire tout début d'année prochaine. Mais effectivement, on a une réglementation européenne qui s'appelle la taxonomie qui a été mise en place sur tous les pays d'Europe. Et donc à partir de là, on va avoir effectivement une uniformisation des ambitions et des volonté de tous les pouvoirs politiques pour aller dans le même sens. L'industrie immobilière est la deuxième consommatrice de CO2 après le transport, donc on est cible, entre guillemets. Ouais. On fait partie des acteurs sur lesquels il y a un potentiel effectivement de rectification important. Il est considéré aujourd'hui en Europe qu'il y a à peu près 75% des immeubles qui sont inefficients d'un point de vue énergétique, et donc il y a un gros travail à faire sur l'intégralité des pays européens.
On va parler de ces pays justement parce que donc si baisse des valeurs des actifs immobiliers, ça peut vouloir dire baisse de la valeur des parts de SCPI. Est-ce que cet impact ESG sera sensible dès 2021 ou ça sera étalé sur plusieurs années ?
Alors ça va être un petit peu plus fin que ça, dans le sens où déjà dès 2021, les impacts de ESG ne seront pas encore là, puisqu'il y a des plans de travaux sur les 10 prochaines années, donc ça va être aussi étalé, c'est-à-dire que c'est pas en une année qu'on va être obligé de faire l'intégralité des travaux d'un parc immobilier, donc ça va s'étaler sur 10 ans. D'un autre côté, je pense que tous les immeubles vertueux, pour le coup, auront une augmentation peut-être des loyers, donc une négociation avec les locataires. Donc il y aura une contrebalance effectivement des coûts de travaux avec des augmentations de loyers. Il y a aussi le schéma des valorisations. Donc les valorisations vont aussi avoir une différence assez forte et ça va s'accentuer dans le temps. Et en tout cas jusqu'à 2030, entre des actifs qui sont inefficients et qui vont perdre de la valeur clairement, et des actifs qui vont être plus vertueux et qui seront dans les normes de demain et qui eux vont certainement gagner en valeur. Donc à très court terme, je pense que même les valeurs de l'immobilier, quand on voit le contexte, vont certainement monter. Et après, il y aura cet arbitrage entre les deux, entre des actifs qui vont être vertueux et d'autres qui ne le seront pas.
D'ailleurs, vous avez vous-même augmenté la valeur de la part en 2020 sur une de vos SCPI, si je ne m'abuse. Mais je voulais qu'on parle de votre activité...
2021,
oui, pardon. Je voulais qu'on parle dans l'actualité produit, le lancement de votre unité de compte immobilière. Je voulais savoir si on était aujourd'hui en termes de collecte et si elle avait procédé à des investissements particuliers.
Alors notre société civile, effectivement, Advenis Immo Capital, est une SCPI, qui va investir au niveau pan-européen et qui va aujourd'hui être positionnée sur différentes classes d'actifs. On a aujourd'hui, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des SCPI Eurovalis et Elialis qui sont plus marqués géographiquement. Là, l'idée, c'est de créer une société civile qui est, elle, investie sur l'intégralité des pays de l'OCDE, voire même plus largement que l'Europe, et donc qui va pouvoir investir de manière plus large. Et sur différentes classes d'actifs, donc ça fait partie des schémas qu'on voulait plutôt opportunistes en termes d'investissement. Donc c'est une SC qui a été lancée en juillet, qui va effectivement finaliser, ou en tout cas finir l'année autour de 7 millions d'euros, avec une accélération l'année prochaine, en sachant qu'elle est essentiellement investie, principalement investie dans le cadre des contrats d'assurance vie comme une unité de compte.
Et elle peut investir en immobilier coté.
Et elle peut investir effectivement en immobilier coté également.
Alors je voulais qu'on fasse un petit bilan aussi de vos deux SCPI, on en a parlé, Revalis et Lialis. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur exercice 2021 et est-ce qu'on sait déjà où elles se situeront en termes de rendement ?
Alors sur la collecte et les investissements, on va être en ligne avec nos objectifs. C'est environ entre 180 et 200 millions d'euros de collecte, donc ce qui est plutôt un bon exercice. Et puis en termes d'investissement, tout va dépendre de la fin de l'année parce qu'on a quelques opérations qui doivent se déboucler. Donc ça sera soit fin d'année, soit début d'année prochaine, mais on est en ligne avec nos investissements.
Et en termes de rendement ?
Et en termes de rendement, la SCPI Elialis devrait effectivement progresser un peu parce qu'elle est en phase d'investissement. Et la SCPI Eurovalis pourrait voir un petit peu ces rendements comprimés, de part effectivement aussi liée à l'augmentation de capital qu'on vient de faire, l'augmentation du prix de la part qu'on vient de faire.
Et je crois savoir qu'elles seront peut-être prochainement labellisées ISR.
Oui, tout à fait. On est en finalisation de notre labellisation ISR, donc ça devrait voir le jour normalement début d'année prochaine.
Eh bien, on suivra ça avec attention. Jean-François Chory, merci.
Merci Frédéric.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.